milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Florel Manda.
Bonjour à tous, bienvenue 7 milliards de voisins, une émission consacrée aujourd'hui aux révoltes populaires et plus précisément à la violence qui s'invite dans ces mouvements citoyens. Depuis plusieurs mois, notre monde semble en ébullition, de Hong Kong à Beyrouth, d'Alger à Santiago, de Conakry à Barcelone, plusieurs conflits sociaux traversent les continents. Ils éclatent soudainement et débouchent sur une occupation massive des places publiques, contestation de l'augmentation du prix du ticket de métro, du carburant, d'une taxe WhatsApp ou marche pour le climat. Beaucoup de manifestations, au début pacifiques, basculent dans la violence. Mais alors, comment expliquer cette agressivité lors de ces rassemblements, y compris de la part des représentants des forces de l'ordre? Quel est l'élément déclencheur? Nous en discutons avec nos invités. Frédéric Gros, bonjour.
Bonjour.
Docteur en philosophie, professeur à Sciences Po Paris. Vous êtes l'auteur de Désobéir aux éditions Albin Michel. Également avec nous en studio, Vincent Jarosso, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes photographe et auteur de l'ouvrage Les Racines de la Colère aux éditions Les Arènes. Puis nous sommes en duplex avec Elsa Dorlin, bonjour.
Bonjour.
Professeur de philosophie et auteur de Se défendre, une philosophie de la violence aux éditions La Découverte. Et il y aura aussi le reportage de notre journaliste Raphaël Constant. Elle s'est rendue au théâtre Apollo à Paris pour la cérémonie finale Balance ton talent, ce concours d'expression artistique organisé par la Fédération ALMA. Et puis comme chaque lundi, nos portraits aussi pour l'Afrique qui gagne. Nous découvrirons Swadi Martin, franco-ivoirienne, à la tête de Iswara, une marque de thé Made in Africa, un portrait qui est loin des clichés que l'on peut se faire des chefs d'entreprise. Et quant à vous, les voisins, les voisines, que vous inspirent ces mouvements massifs de protestation qui émergent ainsi que la violence de ces révoltes? Appelez-nous, on vous attend pour en parler, 33 1 84 22 71 71 sur WhatsApp aussi avec vos messages écrits, c'est le même numéro.
Oui, la RFI.
7 milliards de voisins. On est toujours à l'écoute.
Et il y a vos messages aussi sur notre Facebook. Alors il y a par exemple Moustapha de Niamey qui dit « Nous n'arrivons pas à avoir des autorisations de manifester pacifiquement pour faire entendre notre ras-le-bol. Du coup, nous manifestons quand même sans autorisation. Les forces de l'ordre ne peuvent pas soutenir une manifestation illégale et cette frustration conduit à une grande violence. » On en discutera un petit peu plus tard. Également John Lorougnon qui dit « Nous sommes dans une société où il y a beaucoup d'inégalités qui n'ont pas de solution. Lorsque nos gouvernants n'ont pas de solution, ça bascule dans la violence et les cocktails Molotov. » Et puis enfin, Trésor Kinshasa, « Il est très difficile de mettre fin aux violences lors des manifestations en RDC, car en Afrique, une manifestation sans violence, c'est un non-événement. Elle ne fait même pas l'objet d'une petite place dans les journaux et cela n'attire pas les regards des autorités. C'est ainsi pour attirer les attentions des autorités. Les manifestants recourent au pillage, des casses, donc à la violence. » Suivez-nous aussi également en direct sur Facebook et sur Twitter. Alors messieurs, aujourd'hui il semble qu'aucun continent n'échappe à une révolte populaire, avec le plus souvent la jeunesse en première ligne. Des protestations massives et impressionnantes se multiplient partout. Frédéric Gros, est-ce qu'on assiste en ce moment finalement au printemps des peuples ?
Au printemps des peuples, en tout cas, on assiste à une fin d'histoire, c'est-à-dire à un certain cycle d'un mode de production de richesse, du capitalisme, de ce qu'on a pu appeler le néolibéralisme, est sans doute complètement en fin de course. Et c'est vrai que ça génère, par les inégalités que ça provoque, vous l'avez mentionné vous-même ou vos éditeurs, c'est vrai que ça génère de la frustration, de la colère et de l'exaspération.
Donc il y a un climat qui serait propice à cela finalement, Vincent Jarosso?
Le climat est effectivement propice à un soulèvement des peuples. Alors moi, je me méfie des expressions. Hein. C'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui est assez sidérant dans le fait que ça a lieu partout, et je dirais un peu de la même manière, avec des gens qui s'auto-organisent dans les mouvements. Bon, après, ces mouvements de révolte en soi ne sont pas nouveaux dans l'histoire. On a vu le printemps arabe il n'y a pas si longtemps. Maintenant, ce qui diffère avec ces mouvements, c'est leur spontanéité et c'est le fait qu'ils ne soient pas adossés à des structures d'organisation, faute de débouchés politiques.
Ouais.
Effectivement, à cette nouvelle page de l'histoire qui reste à écrire, d'une certaine manière.
Elsa Dorlin, qui est en duplex avec nous depuis Aix-en-Provence, vous voulez rajouter quelque chose à ce sujet ?
Oui, je dirais que c'est pas seulement la frustration et la colère, je crois que ce sont des révoltes populaires, mais qui sont éminemment politiques aussi, qui ont une charge critique par rapport à ce que Frédéric Gros identifiait, c'est-à-dire le néolibéralisme et le fait qu'un régime, des régimes politiques s'adossent à l'économie et porte atteinte en fait aux conditions de vie de millions de personnes.
Oui, justement, qui sont peut-être des éléments de réponse. Finalement, apprendre à Alger que le peuple proteste au Chili qui se soulève aussi à Barcelone et ainsi de suite, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de légitimer la contestation, Vincent Jarousseau?
Écoutez, moi...
Puisque les autres le font, bah, nous aussi, on peut le faire.
Non, mais l'effet de contagion existe, mais les causes sont les mêmes d'une certaine manière un petit peu partout, même si évidemment les conditions sociales d'un pays à l'autre peuvent différer. Mais on le voit, y compris dans le mouvement à Hong Kong, qui n'est pas uniquement un mouvement géopolitique lié à la situation particulière de Hong Kong par rapport à l'Empire chinois, mais c'est aussi le sentiment que le peuple de Hong Kong, qui d'ailleurs est sous-représenté, on le voyait finalement assez peu dans les représentations de Hong Kong, n'a pas envie d'aller vers le système chinois qui est l'un des plus inégalitaires, malgré le fait qu'il ne soit pas inscrit dans... à l'origine, dans un mouvement, enfin, c'est un pays hyper capitaliste pour le coup, et c'est un refus finalement de basculer complètement dans ce système de la part des jeunes à Hong Kong.
De reprendre son destin un petit peu en main.
Oui, je pense que le cocktail est à peu près partout le même, c'est-à-dire d'une part un système économique qui génère des inégalités, encore une fois, abyssal et pas simplement des inégalités, et une méfiance envers le politique, ou plutôt le sentiment que les gouvernements d'ici ou là ne tiennent qu'en s'adossant aux politiques. On a eu une très grave crise en 2008 et rien n'a changé. On nous annonce à nouveau une crise financière, on nous annonce à nouveau qu'il faut renflouer les banques. Pensez à la phrase de Benjamin qui dit la catastrophe, c'est quand tout continue comme avant. Rien n'a changé. Rien n'a changé.
Elsa Dorlin ?
Oui, c'est en ce sens-là que ce qui apparaît comme des révoltes qui peuvent être qualifiées de violentes, en fait, sont vraiment, désignent cette volonté de faire éruption dans le réel et de reprendre non seulement la rue, l'espace public, mais de se reconstituer comme la réalité sociale vécue par l'extrême majorité des individus face à une toute petite minorité qui semble complètement capter les richesses.
Oui. Et tout à l'heure, vous le disiez, Vincent Jarousseau, ces mouvements citoyens presque synchronisés, c'est-à-dire que à quelques jours près, parfois, ils se suivent. C'est pas nouveau finalement, en une période, dans une même période comme ça.
C'est pas nouveau, mais enfin, on voit bien qu'il y a, ça a été dit, que nous sommes dans une période charnière où il y a une bascule vers un autre système. Mais je crois que fondamentalement, c'est aussi, au-delà de la dimension politique qui est évidemment centrale dans l'irruption de ces mouvements, c'est aussi une réaction très forte à la déshumanisation de la société telle qu'elle existe des États. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, au-delà de toute la dimension économique et sociale qui est très présente dans ce mouvement. C'est aussi dans le besoin de fraternité qui s'est exprimé et qui s'exprime encore dans les ronds-points. C'est quelque part mettre le doigt sur la déshumanisation de l'État. Ce ne sont pas des mouvements contre l'État, contre le fait qu'il y ait un État qui régule et qui organise les choses. C'est d'abord une réaction au fait que on est face à des guichets qui se déshumanisent, où il y a de moins en moins d'ailleurs d'humains dans les décisions. Or, la richesse du XXIe siècle, c'est plus la production de biens, c'est la production de liens.
Oui. C'est ça. D'ailleurs, dans votre livre, Frédéric Gros, on en parlait tout à l'heure en antenne, votre livre qui s'appelle « Désobéir », je le rappelle, il y a une phrase qui est très intéressante puisque vous dites que « désobéir » devient une affirmation d'humanité. On
oui,
est dans ça.
Disons que pendant des siècles, on a considéré à partir de l'opposition entre l'homme et l'animal qu'au fond, ce qui faisait l'humanité, ce qui permettait la civilisation, c'était l'obéissance. Et je veux dire, ce qu'on apprend aux enfants dans l'éducation, c'est évidemment à pouvoir se plier aux règles communes. Et encore une fois, il ne s'agit pas de remettre en cause tout ça. Cela dit, le nouveau doublet, ce n'est pas l'homme et l'animal, c'est l'homme et la machine. C'est-à-dire, on nous demande d'obéir comme des machines. Mmh. Et cette espèce de docilité automatique est la nouvelle forme de notre monstruosité. Et à partir de là, le simple fait de désobéir au sens de dire bon, on arrête un peu, quoi, on arrête, on réfléchit, voilà, ça c'est vrai que ça fait partie de ce que j'appelle une affirmation d'humanité, mais au sens, ça a été dit par ici, au sens où ce qu'il y a de précieux, en tout cas dans ces mouvements, qui encore une fois sont, on peut le dire, ils sont brouillons, ils sont multiformes, personne n'y comprend rien parce qu'il n'y a pas de structuration par les partis, peut-être.
On se demande si même eux, parfois, ils comprennent quelque chose.
Oui, mais je dis, il y a une redécouverte du politique. Par là, quand je dis du politique, c'est que la question comment est-ce qu'on veut être gouverné est à nouveau posée par ceux qui sont gouvernés.
Enfin, ils sont brouillons, mais en même temps, il y a quand même des choses assez similaires dans toutes ces manifestations, entre les symboles en commun que l'on reprend. On a beaucoup vu le masque du Joker, puisque le film est sorti récemment, le masque Anonymous. Enfin, on dirait qu'il y a une sorte de tutoriel un petit peu d'une manifestation aujourd'hui.
Oui, en effet, mais enfin, brouillon, moi, je ne suis pas si sûr. Hein. C'est vrai que si on reprend le mouvement des Gilets jaunes, au début, pour certains, il a pu apparaître brouillon. Moi, de mon point de vue, par rapport à ce que j'ai pu documenter dans cette ville de Denain, en écrivant Les Racines de la colère,
Je rappelle que vous avez effectivement suivi pendant 2 ans le quotidien de famille française issue de milieu populaire à Denain, donc avec votre livre Les Racines de la colère.
Oui, ce sentiment finalement de ne plus être représenté depuis longtemps par les partis politiques traditionnels ou les syndicats était déjà extrêmement présent. Et c'est vrai que moi, j'étais pas forcément surpris par la nature du mouvement. Et pour le coup, les Gilets jaunes ont écrit noir sur blanc des revendications. Ce week-end à Montpellier, il y avait le quatrième rendez-vous, je crois, de l'Assemblée des Assemblées. Ils portent des revendications qui sont extrêmement claires, qui sont à la fois sociales, démocratiques, hein, sur la question de la place des citoyens dans la décision. Mmh. Ça a été notamment cette revendication du RIC qui a été portée. Et en fait, on se rend compte que ces revendications d'un continent à l'autre, bon gré mal gré, on les retrouve de manière presque similaire. Ce ne sont pas des copier-coller, hein, mais il faut savoir que ces mouvements se parlent aussi entre eux. Hein.
Oui, se parlent, se regardent, se suivent, effectivement. Et c'est ce que je disais, se regardent, enfin, se sentent un peu légitimes aussi, eux, de manifester une colère. Par contre, ce que l'on constate également, c'est l'importance des réseaux sociaux par rapport au fait qu'il y a déjà eu des mouvements comme ça simultanés. Là, les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça change peut-être aussi pour ces manifestations?
Bah, disons qu'il y a une absence quand même de structuration par des formes traditionnelles qu'étaient les syndicats, les partis. Ça, c'est quelque chose de très nouveau et vraiment une espèce d'immanence horizontale qui donne lieu à des communications qui est très impressionnante. Et surtout, cette utilisation des réseaux sociaux empêche une instrumentalisation univoque, massive, etc. Parce que vous avez une puissance de réactivité qui n'existait pas auparavant. Et donc, il y a quand même un refus d'instrumentalisation très net. Oui. D'être récupéré, oui.
Elsa Dorlin.
Oui, non, mais c'était sur revenir également sur la pertinence politique et l'organisation. Je suis pas sûre que il n'y ait pas des mouvements justement qui sont très structurés par des par des groupements, des militants qui, dans la plupart aussi des lieux, étaient réprimés, interdits, inaudibles. Donc la structuration, on la retrouve. Et je trouve aussi que le point commun, vous parliez du masque tout à l'heure, c'est vraiment une dénonciation de la répression policière, oui. De l'interdiction pure et nette de manifester, justement d'exprimer une contestation dans l'espace public. Et donc je crois que également, ce qui entre le Chili, la France, Hong Kong ou le Liban ou l'Algérie, la contestation, elle est adressée de façon majeure à des États qui sont devenus des États policiers, des États répressifs, et qui effectivement ne semblent que défendre finalement l'intérêt, encore une fois, des intérêts économiques qui ont complètement abandonné une part entière de leur population, qui rendent en plus responsables de leur paupérisation.
Alors justement, en parlant de, vous parliez des autorisations de manifester, nous sommes en ligne aussi avec Aladin de Conakry. Bonjour Aladin.
Bonjour, Aladin depuis Conakry.
Aladin, oui. Depuis Conakry, excusez-moi. Alors vous nous avez donc envoyé un message en disant que la violence s'installe dès lors que les autorités interdisent les manifestations, alors que c'est autorisé par toutes, c'est ce que vous dites, hein, par toutes les constitutions. Et donc en fait, vous dites que la violence et la fronde arrivent si on n'autorise pas ces manifestations. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire plus, Aladin?
Bien sûr, le constat fait preuve ici en Guinée-Conakry. Nous avons assisté toujours à plusieurs manifestations récemment. L'élection législative et aussi l'éducation aussi qui a été bâillonnée aussi par le SLEG concernant toute cette manifestation qui n'a pas été autorisée. Alors que dès que l'autorisation n'est pas là, la violence s'installe. On se dit que nous sommes bafouillés dans notre dignité alors que la Constitution la consacre. Manifester liberté d'expression. Et donc, dès qu'il s'interdit, nous assistons à une violence, à une indignation, parce que nous disons que nous sommes blessés dans notre chair, alors que la Constitution l'autorise. Tout dernièrement, la manifestation qu'a effectuée le FNDC, quand c'est autorisé, il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de pillage. Mais dès qu'il s'est interdit, là, la révolte est là, l'indignation est là. Et la répression policière aussi intervient.
Vincent Jarosso, vous voulez réagir à ce que dit Aladin?
Oui, parce que finalement, ce que dit Aladin, on le retrouve aussi d'une certaine manière en France, avec le mouvement des Gilets jaunes. La nouveauté de ce mouvement, effectivement, c'est d'avoir organisé des formes de manifestation qui ne correspondaient pas aux formes de manifestation traditionnelles des syndicats.
Mais enfin, elles étaient autorisées au départ.
Elles étaient autorisées sur certains parcours, mais ce qui n'était pas autorisé, effectivement, c'était de sortir des parcours. Moi, je peux vous dire que j'ai pu couvrir par le passé des manifestations où je me souviens en 2010, au moment du mouvement des retraites, où les parcours ne suivaient pas strictement le parcours indiqué, puisque la manifestation était trop massive. C'est pas pour autant qu'il y avait une répression, il y avait une tolérance, il y avait une certaine tolérance. Il y avait un dialogue minimum, je dirais, entre manifestants et forces de police, autorités de police. Et ce à quoi nous assistons finalement un peu partout dans le monde aujourd'hui, c'est une forme de militarisation du maintien de l'ordre et finalement à une forme d'intolérance à toute forme finalement.
Donc on réprime la manifestation, du coup ça entraîne de la violence.
Si vous prenez par exemple mai 68, vous prenez les CRS en mai 68 et vous comparez leur équipement aux CRS d'aujourd'hui. Donc ils ont une veste de cuir, ils ont des boucliers qui sont relativement légers, ils se prennent des cocktails Molotov dans la figure, mais eux n'ont pas l'arsenal répressif que l'on connaît aujourd'hui. Et quand vous écoutez le ministre Castaner aujourd'hui parler de ces forces de police, on a l'impression finalement que les forces de police aujourd'hui sont confrontées à beaucoup plus de violence, ce qui n'est pas vrai. Il n'y a pas plus de violence aujourd'hui qu'en mai 68. Il n'y a pas plus de violence aujourd'hui qu'en 78, quand les sidérurgistes de Denain ou de Longwy descendaient à Paris.
Qu'est-ce qui a changé? Moi, alors
par exemple, à Denain, en 79, on tire sur la police. Les manifestants tirent sur la police à balles réelles. Donc, ce qu'il faut, si on prend un peu de recul historique par rapport au présent, on se rend compte qu'il y a une tolérance par rapport à cette expression de la violence qui a évolué, qui a changé.
Oui, Frédérico.
Il me semble.
Oui. Allez-y, Elsa Dorlin. Allez-y.
Oui, non, il me semble que, enfin, il faut parler de, effectivement de la matérialité des blessures, des préjudices en manifestation aujourd'hui, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont été éborgnées en manifestation du fait de l'usage d'un arsenal effectivement qui est de l'ordre de d'armes militaires. Le fait que les personnes ont perdu des mains dit quelque chose sur les armes qui sont utilisées aujourd'hui pour réprimer la manifestation. C'est pas seulement une mise à distance, par exemple, ou un contrôle des cortèges. C'est clairement une volonté de sidérer le corps manifestant pour faire en sorte que de faire passer l'envie en fait de venir s'exprimer dans l'espace public. Et ça, c'est parce que en fait, on le dit pour la France. Je pense évidemment aux gilets jaunes, mais il faut aussi rappeler ce qui s'est passé avec les gilets noirs au Panthéon en juin dernier, c'est-à-dire une répression extrêmement violente, ou à la manifestation pour le climat, dont on a vu les images de gazage de manifestants qui étaient parfaitement pacifistes. Mais c'est le cas, par exemple, à Hong Kong, où il y a un rapport citationnel clairement avec la politique répressive française.
Alors, selon vous, donc c'est ça le point de basculement, finalement ?
Parce que clairement, en fait, il me semble que ce qui a changé politiquement, en tout cas, c'est que les quelques décennies qui avaient précédé le coup politique de blesser un manifestant, voire de tuer un manifestant ou une personne dans le cadre de manifestations, était bien trop important pour les politiques et même pour la continuité en fait de la dimension démocratique. Alors, justement du maintien de l'ordre. Aujourd'hui, il semble que le coût de blessure, voire de mort, n'est plus un problème pour l'État.
Oui, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il y a un bilan qui est sorti par rapport justement à toutes les manifestations des Gilets jaunes. Nous sommes également en ligne avec Emmanuel à Abidjan, qui a 27 ans, et qui nous dit que la violence, pour lui, vient du fait qu'il y ait des gens qui infiltrent les manifestations afin de commettre des actes de vandalisme. Bonjour Emmanuel.
Oui, allô, bonjour.
Oui, vous nous entendez ?
Oui, je vous entends.
Alors, donc parlez-nous un petit peu de votre point de vue.
Voilà. Très souvent, nous avons assisté dans les manifestations à des personnes mal intentionnées qui infiltrent les manifestants afin de commettre des actes de vandalisme. Et j'ai entendu souvent aussi dire qu'il y a des espions même envoyés par les membres du gouvernement en vue de tenir l'image des manifestants. Mais là, bon, là, ça reste à vérifier.
Oui, ça reste à prouver ça. On est...
Donc très souvent, nous... Oui?
Non, on vous écoute.
Oui. Ok. Donc, nous remarquons qu'au fur et à mesure, au début des manifestations, le nombre de manifestants est, on peut dire, de 500, et au fur et à mesure, le nombre augmente. Et après, un certain nombre, on ne sait plus qui est à côté de nous vraiment. Et on ne sait pas s'il y a des personnes mal intentionnées, des voleurs et autres. Et ce sont ces gens de personnes-là qui s'adonnent très souvent aux actes de vandalisme, qui brûlent, qui cassent les magasins.
Donc, en fait, si je comprends bien. Merci beaucoup, Emmanuel. Si je comprends bien, la violence vient du fait de la répression. Et puis, d'un autre côté, comme nous le dit Emmanuel, ce serait aussi le fait de groupuscules qui infiltraient. On en a beaucoup parlé avec les Gilets jaunes. Mais les manifestants ne sont pas violents, alors, finalement ?
Après, qu'il puisse y avoir ici et là des actes de vandalisme, j'allais dire, ça a toujours existé. Simplement qu'on se sert de levier...
Je trouve qu'il y a quand même une forme de radicalité, quand même, j'ai l'impression, qui est assez inquiétante, non ?
Il faut bien voir que le traitement médiatique de ces espèces de formes de violence, de vandalisme qui existent, avec des systèmes d'information en continu, provoque quelque chose comme une espèce d'hystérie qui vise à criminaliser l'ensemble du mouvement. C'est toujours la même chose. Il faut bien voir que cette violence, d'une certaine manière, quand on parlait du coup de ces blessés, etc., on en attend quand même des bénéfices, c'est-à-dire provoquer quelque chose comme une peur qui fasse que les électeurs...
Elle bénéficie à qui, cette violence, finalement ?
Non, mais ce qui se passe de manière extrêmement claire aujourd'hui, c'est que effectivement, on assiste à une instrumentalisation d'une violence supposée des manifestants par le pouvoir, quel qu'il soit. Je parle de la France, mais je parle aussi des autres pays. Et je reviens à ce terme que j'ai employé tout à l'heure, il n'est pas neutre. Quand je parle de militarisation de l'organisation des forces de l'ordre, je répète ce terme-là, il a une signification dans les stratégies qui sont employées pour, d'une certaine manière, entretenir et criminaliser, comme vous le dites à juste titre, toute forme de contestation sociale. Des débordements dans les manifestations, il en a toujours eu. Hein, j'en parlais en mai 68 tout à l'heure. Le rôle des CRS à l'époque, c'était pour le coup de contenir cette violence.
Donc il y a pas plus de violence qu'avant, en fait.
La différence, c'est que c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des forces de l'ordre. Alors, je continue à employer ce terme, mais qui sont dans des stratégies offensives et non défensives, ce qui change complètement les choses, évidemment. Et évidemment, ça a des conséquences, on l'a dit tout à l'heure, sur le nombre de blessés dans les manifestations. Mais véritablement, c'est ce changement de stratégie auquel nous assistons. Moi, j'étais il y a deux semaines à la manifestation des pompiers et des urgentistes à Paris.
Qui a énormément fait parler, effectivement, oui.
Syndical, traditionnel. Voilà, moi j'y suis allé sans équipement pour couvrir ce mouvement. Je ne m'attendais absolument pas à cette répression. La manifestation était bon enfant.
Donc c'est voilà. Le simple fait de manifester qui provoque de plus pompiers, de violence.
Les pompiers, ils sont concrètement à Nation. Je peux vous raconter comment ça se passe. Et ils veulent rejoindre leur bus pour rentrer en province. Ou en grande banlieue parisienne, et les bus sont stationnés où Porte de Vincennes, et entre les deux, il y a les cordons de CRS, de gendarmes mobiles plutôt. Et c'est à ce moment-là que ça va dégénérer. Et ça va dégénérer avec des techniques de maintien de l'ordre de la part des forces de police, qui sont des techniques offensives, qui sont des techniques militaires.
Donc ce sont les manifestations donc, qui engendrent plus de...
Ce ne sont pas les manifestations, c'est la stratégie de l'État pour la mise en œuvre du maintien de l'ordre qui génère ces violences. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas du côté des manifestations, mais on pourra en reparler tout à l'heure. Elles ont aussi des buts politiques.
Oui. Elsa Dorlin ?
Oui, et je repense aux images lors des manifestations des Gilets jaunes sur... par exemple, la destruction de vitrines de grandes enseignes de restauration rapide ou de bijouterie, ou comme dernièrement au Chili ou à New York, par exemple, la destruction des tourniquets du métro. Il y a aussi un sens politique à ces destructions, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici violence dans le cadre des manifestations, c'est de la destruction des biens qui identifie aussi clairement la cible, ou en tout cas la responsabilité d'un tort social qui est fait à des populations, c'est-à-dire des formes d'augmentation, en fait.
On se défend par rapport à ce qu'on a subi.
Mais alors... non seulement on se défend, mais on identifie clairement aussi la responsabilité de grands groupes internationaux qui, encore une fois, captent des richesses, ou alors de la mise en place de toute une... De tout un dispositif social qui augmente, ce qui fait que le coût de la vie, le fait de se déplacer, de se nourrir, de se loger, est pour une grande partie des populations actuelles un coût qui est impossible, qui rend les vies invivables.
Mais alors, on détruit des biens matériels, etc., des grandes enseignes, mais finalement, pour aboutir à quoi ? Parce qu'on voit bien que jusqu'à présent, à part peut-être au Soudan, qui a abouti à un espèce de compromis, ces mouvements, ces citoyens n'aboutissent à rien de finalement de
Chili,
concret.
Le Chili,
il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de leader.
Au Chili, si.
Mais le Chili, la contestation sur l'augmentation, par exemple, ce qui est parti sur l'augmentation de tickets de métro.
Ticket de métro, oui.
Donc, vous voyez bien que ça part d'une dimension très prosaïque de nos vies, mais le sens politique est extrêmement important et a mené jusque là où on sait.
Est-ce que finalement on n'est pas en train d'installer une nouvelle façon peut-être d'avoir des acquis sociaux ? Est-ce que ce ne sont pas les prémices de quelque chose de peut-être de nouveau ?
Après, c'est difficile d'être prophète, surtout en histoire. Cela dit, quand vous dites que ça donne rien, c'est vrai qu'au niveau des résultats comptables, on pourrait se dire, mais au fond, est-ce que...
À part beaucoup de morts, malheureusement.
Oui, mais ça apporte quand même un témoignage. Et ça témoigne du fait qu'il y a un sens politique dans les classes populaires qui n'est pas mort, qui peut se réveiller, qui peut se manifester. Je pense que c'est très loin. Mais enfin, quand il écrit un texte sur la Révolution, il dit au fond, il écrit au moment après la Terreur, où on pourrait se dire, mais enfin, 89, qu'est-ce que ça a donné? Il dit, d'accord, mais sauf que toute révolution est réussie parce qu'elle témoigne d'un enthousiasme, d'une ferveur populaire qui fait qu'à un moment, on se dit qu'un autre monde est possible. Que ce témoignage existe et qui finit quand même par donner des résultats concrets,
Vincent
c'est essentiel.
Gérosso.
Mais moi, je crois surtout que les peuples aujourd'hui ont créé par eux-mêmes de l'espoir par rapport à un système qui est figé. Si vous prenez le mouvement des Gilets jaunes, au début, on met ce mouvement Gilets jaunes, ce Gilet jaune, pour être visible. Alors, il a un symbole.
Sentiment d'appartenance aussi.
Pas que d'appartenance, de visibilité, parce que si vous prenez les classes populaires et vous parlez et que l'on regarde concrètement leur représentation dans les espaces médiatiques,
ça sera le mot de la fin, Vincent Gérosso.
elles sont absolument inexistantes. Et concrètement, qu'est-ce qui a suivi au-delà de ces images de manifestations et de violences? C'est qu'on a documenté, on a commencé à s'intéresser à ces vies cassées. Et finalement, les vraies violences, elles sont où? Dans mon livre, je parle de Denain, qui est l'une des villes les plus pauvres de France, qui a été touché par les mutations du capitalisme et du néolibéralisme avec la fin de la sidérurgie. Et concrètement, c'est une ville qui aujourd'hui connaît un taux de pauvreté de 45%. Et les morts prématurées dans une ville comme Denain sont énormes. Les vraies violences, elles sont d'abord sociales.
Merci. Merci beaucoup, Vincent Gérosso. Elsa Dorlin, pardon. Votre mot de la fin?
Oui, non, mais sur l'ouverture des possibles, et puis surtout, je pense sur ce qu'on disait aujourd'hui, c'est-à-dire d'inventer d'autres façons, d'autres formes de vie, d'autres modes de solidarité. Et je pense que justement, l'ensemble de ces mouvements ont une fonction et pas seulement d'ouvrir ou de marquer l'histoire, mais aussi de faire notre présent et de dans l'urgence en fait des situations qui sont tragiques. Je crois que c'est là. Par la mobilisation populaire éclatée, mais mondialisée, que quelque chose comme une modification en fait, de nos vies sera possible.
Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été avec nous. Elsa Dorlin, je rappelle que vous êtes professeure de philosophie et auteure de Se défendre, une philosophie de la violence aux éditions La Découverte. Frédéric Gros, avec docteur en philosophie, professeur à Sciences Po Paris, auteur de Désobéir aux éditions Albin Michel. Et puis donc Vincent Gérosso, photographe et auteur de l'ouvrage Les Racines de la Colère aux éditions Les Arènes. On remercie également France Bleu Provence pour notre duplex. My voice, my skin, my logo. How you tryna package me when you don't got a photo? In the end, no ID, no polo. Shot into the heavens cause I don't know where to go to. Somebody tell the dealer I'm coming. I'm coming. My oh my, nah, I'm stunning. My oh my, nah, I'm running in the end, so here I go. We used to think the industry was five stars. And now we itching just to find stars, to find stars. But they were scheming when they find us. And now we talking, now we open, so don't remind us. From the beginning, we never win it. Then when I in this, we despair. You want my art, what's hot, what's not? I'm under charge and overthought. And after dark, and now I'm living, trying to give in every melody of ours. What's hot, what's not, what's ours? Selling six figures, where we meant to, nice. I'm trying to make a living. Music is a source of all my end and my beginning singing.
Cette
milliard de voisins avec Freedom de Sympa de Grete. Allez, tout de suite, reportage au théâtre Apollo à Paris où s'est tenue le 23 octobre dernier la cérémonie finale Balance ton talent, ce concours d'expression artistique organisé par la Fédération ALMA, un réseau d'associations engagées sur le terrain, en grande partie dans la banlieue d'Île-de-France, avait pour thème cette année Ma France à moi. Chant, rap, danse, humour, expression scénique, sept jeunes illustrant la diversité tant par leur milieu d'origine que par leur talent ont exprimé leur vision de la France à travers leur art. Quelles sont leurs préoccupations, leurs interrogations, leurs espoirs? Un reportage signé Raphaël Constant.
On s'est rendu compte que les jeunes nous distancent de plus en plus. Et leur discours est important, leur discours, faut les écouter. Et pour nous, c'était important justement de monter un concours artistique, hein, avec tout talent confondu, dans lequel les jeunes pourraient parler d'une thématique, notamment une thématique républicaine, dont la France, parce que la France, c'est ce qui nous réunit, c'est le pays où on vit tous. Et donc, c'est pour ça que cette année, pour Balance ton talent 2, on a choisi de faire, d'aborder le thème « Ma France à moi ». Bonjour, je m'appelle Juliane Cabananguy, je suis la directrice de la Fédération ALMA. L'idée, c'était d'utiliser la parole des jeunes pour que nous, en tant qu'acteurs de terrain, qu'acteurs de quartier, nous puissions justement répondre réellement à leurs besoins, à leurs préoccupations. Aujourd'hui, nous, on est sur des thématiques où vivre ensemble, prévention contre la radicalisation, lutte contre les extrémistes idéologiques, promotion des valeurs citoyennes. Mais comment on peut réellement atteindre notre but si on n'écoute pas, si on ne prend pas en compte justement ceux qui vivent dans ces quartiers au quotidien, ce qu'ils ressentent et comment justement leur réalité s'exprime autour d'eux et comment nous, en tant qu'acteurs, on peut répondre. C'est vraiment ça. Nous, on veut répondre, on veut réellement agir. On veut utiliser leur discours pour justement, nous, être au plus près de leurs attentes et que notre action associative ait du poids et de l'impact.
Et dans quel contexte social vous menez ces actions?
Quand on regarde un peu ce qui se passe en France, il y a plusieurs thématiques qui reviennent régulièrement dans les médias. Aujourd'hui, il y a la radicalisation, des questions autour de la religion, des croyances.
On est en plein dans le débat sur le port du voile, par exemple.
Exactement, et c'est des thématiques qui reviennent au quotidien et c'est des choses qu'ils voient, des émotions qu'ils ressentent. Peut-être que parfois certains se sentent rejetés justement par le discours qu'ils ne comprennent pas à la télé. Enfin, on ressent réellement parfois aussi leur incompréhension. Cette France ne les comprend pas ou peut-être qu'ils ne se retrouvent pas dans cette France-là et pourtant ils sont nés dans cette France et c'est leur pays.
Et comment justement encourager les jeunes, notamment des quartiers difficiles?
J'étais toujours dans les quartiers, il y a du talent, mais parfois c'est des talents gâchés parce que c'est des talents qui ne sont pas accompagnés, c'est des talents qui n'ont pas confiance en eux, n'ont pas le cadre pour pouvoir justement exprimer ce qu'ils ont en eux. Ils n'ont pas les moyens financiers, certains jeunes participants, enfin certains vivent dans les foyers, certains vivent dans des conditions très difficiles. C'est surtout ce point-là qu'on travaille nous au quotidien pour essayer justement de leur apporter des solutions et de leur dire non, les jeunes, vous êtes français et vous devez justement vous affirmer en tant que français, vous avez le droit aussi d'exister et ne vous censurez pas.
Douce France, ton passé n'est pas le mien, ne sera jamais le mien parce que je fais pas partie des tiens. J'ai beaucoup de choses à dire mais peu de temps pour le faire, je t'avoue que je peux pas tout dire sinon c'est sûr que je prends du ferme. La corruption a piétiné le drapeau tricolore, pourquoi on a des frères au ciel, demande aux forces de l'ordre.
Alors moi c'est Nani, j'ai 22 ans, je viens du 93 à Romainville et ce soir je participe au concours Balance ton talent avec ma petite sœur. J'écris mes textes depuis la CE2. Et on va dire que je me suis lancée vraiment dans le rap à faire des vidéos sur internet, etc. il y a 2 ans maintenant. Rap 100% rue, 100% conscient. Et je suis là juste pour éclaircir les vérités.
C'est-à-dire?
Parce que je vais aller chercher les sujets qui veulent étouffer. Moi, je veux les ressortir au grand jour, tout simplement.
Et quels sujets, par exemple?
Les féminicides, l'islamophobie, l'homophobie, toutes les inégalités en vrai. Les bavures policières, etc. C'est mon domaine.
Et c'est ton domaine parce que c'est des choses que tu côtoies au quotidien?
Parce que c'est des sujets tabous, c'est des sujets qui fâchent. Par exemple, contre les bavures policières, je suis très 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 engagée même parce que ça peut être moi. J'ai déjà subi des violences policières, donc je sais ce que c'est. Pendant une manifestation de gilets jaunes, j'ai été attrapée à Bastille et puis j'ai été prise à partie par 4 policiers à coups de barre de fer dans la tête, etc. Puis j'ai été hospitalisée pour un traumatisme crânien. Mais après ça, même si tu déposes plainte, t'as pas de suite en fait. Tant que c'est un policier qui t'attrape, qui te frappe, ça passe. Mais si c'est moi qui frappe les policiers, ça passe pas. Donc c'est pour ça que je m'engage et pour que en fait, le pouvoir y réagisse en fait, avant que ce soit trop tard.
Et c'est quoi ta France à toi alors?
Ma France à moi, elle est black, blanc, beurre, toutes les couleurs. sans violence et sans inégalité un maximum possible.
Alors bonjour à tous, c'est la SN2 Gang. On est un collectif d'artistes, de musiciens, de rappeurs.
Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots ce qui vous tient à cœur et ce que vous voulez transmettre justement dans cette musique ?
Vous voyez, les gens dans la vie de tous les jours, des fois ils ont des problèmes, des fois ils ont des soucis, des fois tu prends le métro, tu vois les gens, ils ont la mine serrée, ils sont là, ils sont pas contents, tout ça. Et ben nous, on vient pour faire oublier les problèmes des gens. Si on peut dire ça comme ça, les gens, il faut qu'ils oublient leurs problèmes. Même nous, notre vie à nous, des fois, elle n'est pas rose. Mais malgré ça, il y a de la musique. Bah, cette musique qu'on fait là, elle est faite pour donner le sourire aux gens. On parle de nos origines, on parle de la France, du fait que la France, c'est un pays où il y a du mélange, en fait. Il y a des Blancs, il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a tout le monde. Et c'est ça qui fait la beauté de la France, en gros. Tout le monde est différent, mais c'est ça qui fait la beauté, en fait.
La pièce d'identité, c'est que du papier. On peut dire on est français. En fait, on a la nationalité française, mais on reste quand même congolais, sénégalais, ivoirien, malien. Vous voyez ce que je veux dire, c'est, on le reste quand même par notre apparence, voilà, par nos cultures, tout ça. On le reste, même si on a la carte d'identité, on reste quand même.
C'est des questions identitaires, en fait.
Voilà, ouais.
Avec
voilà.
L'humour, surtout avec l'humour, avec toujours. Ouais.
J'ai vu que t'avais une bave tout. Regardez partout ça, tu l'emballais tout ça, câlin, bisous, tout ça.
C'est un petit jeu, non?
Non, mais moi je savais pas que t'aimais les blanches. Mais, ça se voit, toi tu fais ça pour les papiers, toi.
Comment ça je fais ça pour les papiers? Si je vais sortir avec une noire, une arabe, une blanche, je fais ce que je veux, on est en France, c'est la mixité, tu connais pas, gros.
Comment ça?
Et comme chaque lundi dans 7 milliards de voisins, nos portraits pour l'Afrique qui gagne, elle a misé sur le thé de luxe. Swadi Martin est à la tête de Iswara, une marque de thé made in Africa, d'une élégance folle. Cette franco-ivoirienne qui écrit des livres spirituels pour enfants et enseigne aussi le yoga, respire la sérénité. Loin des clichés que l'on peut se faire des chefs d'entreprise, elle était l'une des invitées du 3e sommet annuel de Women in Africa qui s'est tenu en juin dernier à Marrakech, au Maroc. Une plateforme qui regroupe des femmes africaines leaders à haut potentiel. C'est là qu'Alice Milo l'a rencontrée.
Alors moi j'ai vécu dans beaucoup de pays différents, j'ai vécu dans 11 pays différents. Quand je suis née, on vivait au Libéria, ensuite on a quitté le Libéria à cause de la guerre, on est allé au Sénégal, ensuite en Côte d'Ivoire, en France, etc. Donc avec des parents incroyables. Déjà née dans un contexte très atypique aussi, d'un père qui était un leader des Black Panthers, d'une mère qui avait fait Woodstock, donc des parents très très atypiques, installés en Afrique, de mélange aussi de tout continent, donc père américain, mère française, ivoirienne, guinéenne, et donc voilà, des révolutionnaires un petit peu. Et donc voilà, j'ai grandi dans un environnement où on m'a vraiment soutenue à trouver qui je suis et ce que je veux faire et poursuivre mes passions. Voilà, et aujourd'hui je vis sur trois continents, entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe.
Vous êtes devenue chef d'entreprise, vous avez notamment une marque de thé de luxe. Comment ça s'est construit ce chemin-là ?
Alors j'ai toujours voulu être entrepreneur quand j'avais 5-6 ans. J'étais déjà très très déterminée et puis quand on me demandait « Swadi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande ?» et je disais « businesswoman ». J'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. À la fin de mes études, j'ai intégré la Société Générale Électrique, donc j'ai fait toute ma carrière corporate là, mais avec une vision très claire que le corporate c'était pour 10-15 ans, c'était un moyen d'apprendre différents métiers, différentes compétences, et donc j'ai beaucoup travaillé, je levais ma main pour tout challenge, tout ce qu'on demandait, qui veut faire, Swadi, elle levait toujours la main, parce que c'était vraiment un moyen pour moi d'apprendre le plus possible avant de devenir entrepreneur.
Et donc ensuite vous avez monté donc votre propre boîte, pourquoi avoir choisi de travailler sur le thé ?
Je considère que je suis une Africaine privilégiée dans le sens que j'ai jamais manqué de rien, j'ai eu droit à meilleures éducations possibles, j'ai eu beaucoup d'accès à beaucoup de choses. Et pour moi, ça vient avec une responsabilité. La responsabilité, c'est de créer un chemin pour les autres. Et toujours regarder qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui reste à faire et qu'est-ce que je peux contribuer dans ce domaine. Et pour moi, la transformation de produits agricoles et de matières premières africaines en produits finis à très forte valeur ajoutée était un chemin qui n'avait pas été créé en Afrique. Ensuite, pourquoi le thé ? C'était une conjonction de plusieurs choses. Je suis très grande amatrice de thé, très passionnée de thé. Puis ça venait aussi à un moment donné où le monde devient plus conscient, santé, bien-être. Et donc le thé est la catégorie dans les boissons chaudes avec la plus forte croissance. Et donc il y avait aussi un gap où il n'y avait pas de thé africain sur le marché global. Donc c'est aussi ça, c'est le bon moment. C'est une croisée de mes passions, de la responsabilité, des opportunités de marché. Et tout ça a fait que Issoira est né.
Et donc du coup, vous avez implanté votre site en Afrique du Sud, c'est là que vous avez votre production. Quelles sont les problématiques auxquelles vous avez dû faire face ?
Alors en fait, les obstacles, ils ne sont pas passés, ils sont présents, ils sont futurs, donc c'est une réalité qui est très très vive. Pour vous donner un ordre d'idée, pour un même produit, ça coûte 10 fois plus cher de l'envoyer entre Johannesburg et Paris, disons, qu'entre Paris et New York, 10 fois. Donc en fait, ça fait que les produits finis exportés d'Afrique ne sont pas compétitifs à un niveau global. Et évidemment, c'est la globalisation aujourd'hui, donc on est en concurrence avec le monde et nos produits ne sont pas compétitifs au niveau coût. Alors, le pourquoi, c'est un mélange de plein de choses. C'est le manque de concurrence des transporteurs. C'est peut-être aussi les gouvernements qui ne se sont pas attelés à la question pour mettre en place des structures pour s'assurer que le domaine soit régulé de manière à ce que les entrepreneurs puissent exporter. Donc il y a toute une série de mesures à prendre. C'est un gros sujet auquel il faut s'atteler de manière très sérieuse. Sinon, on n'a pas de chance pour produire en Afrique et exporter à partir d'Afrique. Alors moi, ce que j'ai dû faire et qui, j'allais dire, me déchire le cœur en réalité, puisque finalement ça va à l'encontre du pari que je m'étais donné de créer un produit complètement africain et de l'exporter à partir d'Afrique. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, comme je le disais juste avant, je suis en train d'établir une base opérationnelle et de production en France et aussi en Chine pour pouvoir exporter à partir de ces deux plateformes. Donc, la matière première va toujours venir d'Afrique, mais la transformation ne va plus se faire en Afrique. Et c'était vraiment le défi que je voulais relever avec Issoira. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Je n'abandonne pas. Je me dis, il faut grossir l'entreprise et peut-être quand on aura une voix un peu plus puissante, on va pouvoir faire du lobby pour que les choses changent et que les entrepreneurs africains puissent fabriquer des produits finis à haute valeur ajoutée en Afrique et les exporter à partir de l'Afrique en étant compétitifs.
Vous allez devoir licencier en fait ?
Absolument.
Combien de personnes ?
Ben, en fait, on a dû fermer l'usine déjà, donc on avait 15 de personnes. Tous mes employés se sont recasés, tout le monde comprend. Moi, ça me fend le cœur. Ça fait 3 ans que je me bats à essayer de changer les choses. Et à un moment donné, on n'arrive plus à survivre. Donc, il faut changer de stratégie, puisque ce qui est important, c'est quand même, au bout du compte, aussi de pouvoir faire vivre les fermiers, nos producteurs à qui on achète le thé.
C'était l'Afrique qui gagne dans 7 milliards de voisins. Un grand merci aux équipes Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Baptiste Madinier et Donatien Cahu. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio, rubrique magazine, et nous retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons des futurs parents et de comment rester un couple uni à l'arrivée d'un enfant. À demain, prenez soin de vous. Les portraits de la bande.